Vous êtes toujours sur Radio Campus et c'est Travers sur le 106.6 jusqu'à 14h et nous sommes en compagnie de Philippe Ménard, directeur de la Fondation Auschwitz à Bruxelles, on l'a dit tout à l'heure. Et à propos du livre d'Andreas Heussen, La hantise de l'oubli, entre autres. Il est question dans cet ouvrage d'Anselm Kiefer, d'Art Spiegelman, de Zibal, d'art contemporain, de littérature et de culture mémorielle. Alors Philippe Ménard, de la littérature comparée à la direction de la Fondation Auschwitz à Bruxelles, il n'y a qu'un pas ?
Oui, disons que c'est plutôt un parcours de recherche, mais qui m'a fait conduire notamment à, qui m'a amené à publier ce livre et cette collection. Donc, je pense que c'est un petit peu le sujet de la rencontre, à savoir que il y avait précisément les questions de mémoire, les questions de témoignage ne se réduisaient ni à une discipline ni à un genre, et qu'il était important d'ouvrir une collection qui puisse accueillir aussi bien des essais que des récits, des pièces de théâtre. Et des recueils aussi de contributions universitaires. Et effectivement, le premier ouvrage est celui qui est consacré à Heussen, rassemblant un ensemble de textes pour faire connaître cette grande figure intellectuelle qui est traduite dans beaucoup de langues, sauf le français. Et là, on a un ensemble qui vient de paraître.
Alors, on reviendra sur Heussen tout à l'heure. On va passer à la Fondation Auschwitz. Quelle est la mission de la Fondation Auschwitz à Bruxelles ?
Alors, la mission première, on peut dire, c'est d'entretenir le fonds d'archives et de témoignages des rescapés juifs qui sont revenus d'Auschwitz, belges. C'est une fondation belge qui est...
Donc, ils ne s'occupent pas des autres.
Alors, y a d'autres fondations qui s'occupent des autres. Hein. Déjà, c'est déjà beaucoup de s'occuper des rescapés juifs résistants qui sont revenus d'Auschwitz. Ça veut dire enregistrer leurs témoignages, aussi enregistrer le témoignage des enfants cachés. Donc, c'est aussi des familles entières qu'on essaie de retrouver. Et puis, après, de transmettre ces témoignages. Bon.
Les enfants cachés ?
Alors les enfants cachés, c'est ceux qui ont réussi à se soustraire ou à soustraire aux rafles et qui ont pu être cachés dans des homes, dans des internats, dans des familles et qui ont traversé la guerre un petit peu comme Anne Frank aurait pu le faire si elle n'avait pas été dénoncée et déportée.
Ou comme Boris Cyrulnik l'a fait.
Voilà.
Comment on peut expliquer cette présence continue dans les médias de la Shoah et du développement d'une culture mémorielle au sens large à partir des années 80 ?
Alors, bon, c'est une bonne question pour reprendre un lieu commun. Je crois que c'était présent, mais sous différentes formes, bien avant. Dans les années 80, ça c'est plutôt l'orientation, c'est plutôt faite sur la spécificité même du génocide des Juifs, qui était perçu avant, mais de manière différente. Et avec aussi une augmentation des manifestations commémoratives qui étaient liées à quoi ? Qui étaient liées à aussi une prise en compte des victimes civiles qui était plus importante qu'avant. Faut dire que les années 50, les années 60 mettaient plus l'accent sur, on peut dire, les victimes de la résistance avec des valeurs qui étaient plus liées à l'action. À l'action antifasciste ou à l'action contre le nazisme. Dans les années 80, c'est vrai que certainement en conjonction avec l'importance prise par l'humanitaire, donc un tout autre niveau, les victimes civiles ont beaucoup plus de visibilité dans l'espace public. Et dans cette visibilité-là, on voit apparaître de manière plus précise le génocide des Juifs. Donc, le lieu principal qui est Auschwitz, en tout cas. Enfin, le lieu principal au niveau du camp, sans parler des tueries sur le front de l'Est. Donc, ça s'inscrit dans un grand mouvement de société. Et je pense que la mémoire peut difficilement se penser sans l'évolution des droits de l'homme et de l'humanitaire à cette époque, qui est extrêmement importante, qui aujourd'hui nous paraît évidente, mais qui a porté aussi la mémoire.
Alors finalement, est-ce que l'expression très utilisée de devoir de mémoire est pertinente ?
Alors, devoir de mémoire, le problème, c'est que si c'est une injonction ou si c'est... donc c'est un petit peu savoir comment c'est pris. Pour la Fondation, c'est un devoir parce que c'est notre mission. Mais ce devoir, c'est aussi un travail. On peut dire un travail qui doit aussi s'adapter en partie à la réception, à l'évolution de la sensibilité, tout en défendant nos valeurs, qui doit s'adapter aussi à la disparition des témoins. Donc c'est un devoir qui doit lui-même être en convergence avec l'évolution de notre société actuelle.
Alors c'est notre perception du temps et donc de la mémoire qui s'est trouvée bouleversée avec les nouvelles technologies. Comment justement ce devoir de mémoire, et notamment la Fondation Auschwitz, s'est emparé des nouvelles technologies pour une meilleure passation et transmission de la mémoire?
Alors bon, les nouvelles technologies, je ne m'attendais pas trop à cette question, mais comme on n'avait pas préparé. Je pense que bon, les nouvelles technologies, c'est une facilité, mais il faut pas tomber dans leurre des nouvelles technologies. C'est pas les nouvelles technologies qui vont véhiculer les valeurs, et en tout cas qui vont en faire créer d'autres, si tant est qu'il faille en créer d'autres, et en tout cas qui vont permettre de mieux les transmettre. La sensibilité de chacun se situe sur un tout autre terrain que les technologies, et la réceptivité des jeunes à ces questions qui sont historiques, mais pas simplement historiques, qui nous touchent dans le présent. Doivent pas dépendre des technologies. Il est vrai que pour toucher le public maintenant, il vaut mieux passer par Internet, d'où notre site, auschwitz.be, très facile à trouver, d'où aussi les possibilités de newsletter, d'où toutes ces possibilités qui nous sont offertes maintenant. Mais c'est pas pour autant que la technologie va ouvrir les esprits, parce qu'il y a encore beaucoup de cloisonnement, on peut dire, et de questions qui peuvent être rejetées. Et puis la technologie, ça peut être aussi un piège, en sachant que les propagandes négationnistes passent aussi par les nouvelles technologies. D'où le fait que la technologie, c'est pas la réponse aux valeurs ni à la transmission de la mémoire. Ça peut être une facilité, mais ça peut être un piège. Et un leurre, en plus.
Alors ça, c'est en termes d'utilisation, et moi je pensais que justement la jeune génération, en termes de perception du temps, finalement avec la manière de s'informer sur Internet, sur le génocide comme sur autre chose, avait changé la perception de la mémoire sur le temps.
Oui, alors bon, je parlais de l'heure. C'est vrai qu'il y a les nouvelles technologies et notre rapport aux médias qui produit une espèce de compression du temps qui participe d'un l'heure. Qui fait que bon, on a l'impression que ça peut se consommer. La mémoire se consomme. La mémoire se consomme par Internet. La mémoire se consomme à la seconde, au millième de seconde. À la limite, le travail qu'on pourrait faire, c'est de montrer que c'est plutôt l'inverse. Qu'il faille aussi pouvoir perdre du temps pour aller chercher des documents, lire des livres, et que on peut pas consommer la mémoire, parce qu'on peut pas consommer ce qui est dépositaire précisément d'une autre histoire qui a introduit une rupture dans notre civilisation, et que ça peut pas se consommer comme un match de football ou vous voyez ce que je veux dire,
faut prendre du temps pour aller sur les lieux comme Auschwitz, par exemple.
Alors faut prendre du temps pour aller sur les lieux comme Auschwitz. Alors là aussi, et ça dépend pas de la technologie, mais on voit bien comment c'est en prise avec quelque chose qui est presque l'idéologie de notre temps. Vous avez des voyages qui se font dans la journée. C'est-à-dire, on part de Suisse, on part de Belgique, on part de France le matin très tôt et on revient le soir. Donc, ce qui fait qu'on a absolument rien vu, et c'est des voyages de consommation. Bon, alors évidemment, la Fondation Auschwitz s'inscrit en faux contre ce type de rapport au lieu, et on fait effectivement des voyages, enfin un voyage annuel et éventuellement d'autres voyages, mais qui dure une semaine. Donc avec, on part le lundi, ça on revient le vendredi, avec des séminaires sur place, avec le temps de discuter avec les témoins qu'on emmène, des témoins nous accompagnent. Et donc c'est autre chose évidemment qu'un voyage qui serait là un petit peu comme on ferait sa bonne action, et on reviendrait vite chez soi.
Ce voyage s'adresse à des lycéens ?
Alors, des lycéens, des enseignants, des différents corps professionnels. Il y a 100 personnes par voyage. Donc, c'est extrêmement varié avec le souci précisément de mêler les groupes aussi.
Ah ben, on va donner l'adresse à nos académies et à la région Nord-Pas-de-Calais qui, elle, fait les voyages sur une journée. Mais bon, après, c'est un autre sujet. Alors moi, je reviens à l'idée qu'il est quand même urgent de se souvenir, notamment quand on entend les déclarations atterrantes, récentes, de certains de nos politiques sur les civilisations qui ne se valent pas. Car comme le dit Yankelevitch, oublier serait un nouveau crime. Alors comment lutter contre cette désinformation des cerveaux?
Pardon. Alors, oui, désinformation. Bon, il y a deux choses. Hein. On peut pas. C'est comme pour, comme pour l'antisémitisme ou le négationnisme ou les politiques réactionnaires. Il y a des gens qu'on peut pas convaincre. Donc, il faut pas essayer de convaincre n'importe qui parce qu'il y a des gens qui de toute façon vont retourner systématiquement vos arguments. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas du tout. Donc là, on touche véritablement à la mission de la Fondation qui travaille, évidemment, plus sur la Belgique, mais avec notamment cette collection, ça s'étend sur tous les pays francophones. Il s'agit d'informer sur, à la fois pas simplement l'histoire en termes historiographiques, mais aussi la mémoire et aussi la façon dont cette mémoire s'est constituée, dont cette mémoire a pu nous parvenir. Hein. Donc ça, c'est véritablement notre mission parce qu'il y a finalement beaucoup de gens qui ou ne savent pas ou alors pensent par préjugés, par stéréotypes et des stéréotypes qui ferment plutôt la pensée que la stimuler.
Qu'en sera-t-il du génocide quand les derniers témoins auront disparu et que les camps seront devenus des musées?
Alors les camps sont déjà devenus des musées et c'est un problème énorme qui se pose aux conservateurs et aux guides, hein, parce que ne serait-ce que pour la détérioration des matériaux des musées, des camps, on est obligé de les remplacer par des nouvelles matières, hein, les miradors avec du nouveau bois et bon. Donc ça c'est un réel problème, c'est le problème de la grotte de Lascaux, hein, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va finir par des musées virtuels? Bon, on n'y est pas encore là, mais c'est vrai que bon. Alors là, autre point auquel on est confronté, c'est la disparition des témoins. Alors la disparition des témoins, on n'y peut rien parce qu'on est tous appelés aussi par le temps à vieillir et à disparaître. On les enregistre, on a enregistré déjà leur témoignage. Donc la Fondation a un fonds très important qui participe d'un travail mondial qui a été fait à partir de la Fondation Spielberg avant d'une fondation à Yale. On enregistre de nouveau les témoins sur les sites ou les témoins en visite de façon à pouvoir un peu plus saisir leur rapport au lieu, alors qu'avant c'était un enregistrement lié à leur histoire et à leur parcours personnel. Et puis on essaie aussi de maintenir les valeurs, hein, de maintenir des valeurs donc qui vont finalement perdurer après les témoins, parce que si on assigne le témoin simplement au témoin oculaire et à celui qui a eu l'expérience, ça veut dire que c'est une exigence qui a une limite dans le temps. Donc il faut repenser le témoignage autrement, il faut même penser le témoin et sa position dans la société autrement, de façon à pouvoir assurer un passage du témoignage après la disparition des témoins.
Alors, Andreas Heusen, dans son livre « La hantise de l'oubli », nous dit « Le problème avec la Shoah ne serait pas l'oubli, mais l'excès de mémoire ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors c'est disons que c'est une lecture, hein. C'est une lecture évidemment. Si j'ai publié ce texte, c'est que je trouvais ça extrêmement pertinent. L'excès de mémoire, c'est un petit peu comme l'abondance des technologies, hein. Disons que ça va d'une certaine manière de pair. On va avoir énormément d'émissions à la télévision toutes les semaines sur la guerre, sur le nazisme, sur la guerre. On va avoir la quantité de presse qui couvre ces événements et qui les réactivent, mais qui en font des biens de consommation. Effectivement, il y a un excès de mémoire, mais cet excès de mémoire peut être lui-même producteur d'oubli, parce que finalement, on véhicule de l'information, on véhicule de l'émotion, et on laisse à côté des valeurs, hein, et donc toute une dimension éthique qui concerne pas simplement le passé, mais notre manière de vivre ensemble dans la société.
Alors le livre d'Andreas Heusen traite de la manière dont les artistes sont emparés d'un passé douloureux, et notamment d'Anselm Kiefer. Alors, après Kiefer, l'art allemand n'a plus jamais été le même. C'est un jalon important dans l'histoire de l'art allemand.
Oui, parce que effectivement, il a Kiefer correspond à une génération d'artistes qui ont eu un rapport critique à la fois au passé nazi, évidemment, mais aussi à la société allemande, telle que ce passé, la société allemande des années 50-60, qui avait d'une certaine manière, qui s'évertuait à régler la question. Du passé nazi en l'oubliant à travers ne serait-ce que l'investissement dans le travail, dans la productivité, ce qui était aussi un paradoxe quand on se souvient que à l'entrée du portail d'Auschwitz, il y a Arbeit macht frei, donc le travail rend libre.
Mais alors du coup, Kiefer nous a prouvé que l'art après Auschwitz était encore possible et cela a fait de lui le plus grand peintre d'histoire du XXe siècle finalement.
Oui, alors bon, là, l'art est possible. Hein, disons que on peut pas en rester à cette espèce de prescription d'Adorno, qui lui-même a beaucoup évolué à travers son œuvre, qui est revenu sur cette petite phrase là, qu'on peut pas faire de poésie après Auschwitz. C'est un type. Certainement un type de, il s'agit d'un type de poésie ou d'un type d'art qui peut paraître produire une certaine façon d'oubli d'Auschwitz. C'est contre cela qu'Adorno se dressait, mais c'est pas pour autant que ça révoquait absolument toute expression artistique.
Alors Kiefer nous dit que notre mémoire n'est pas formée à partir du moment où nous naissons, mais qu'elle vient de bien plus loin. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que lui dit ça. Donc après le nazisme, après la guerre, après le génocide. Et par contre, les nazis avant la guerre se réclamaient de l'antiquité grecque. Donc cette espèce de dichotomie entre chaque camp, finalement, fait appel à l'histoire et à la mémoire, mais pas de la même façon.
Oui, et au mythe aussi. C'est disons que l'histoire en tant qu'écriture de l'histoire et l'histoire explicative n'arrive pas à expliquer ou en tout cas à permettre de saisir l'envergure d'Auschwitz, hein, pour le dire rapidement. En dehors, on peut dire de mode rationnel d'explication. L'art vient d'une certaine manière prendre le relais. Et si l'art prend le relais au-delà d'un mode rationnel d'explication, au-delà de l'information, c'est qu'il va toucher à quelque chose qui va être de l'ordre du mythe. C'est-à-dire qu'une explication qui va faire appel à d'autres types de figures et un autre type d'approche. Alors, ce qui se passe avec Kiefer, c'est qu'effectivement, il y a un rapport critique au mythe, mais qui passe par le mythe. Hein. On peut dire c'est de même que Tselan, la poésie de Tselan, et Kiefer a consacré une partie de son œuvre à Tselan. On a un poète qui va utiliser des procédés lyriques, mais qui à l'intérieur de la langue allemande va porter même la critique et du lyrisme et de la langue allemande. Donc il faut c'est un travail qui se fait de l'intérieur et qui ne se satisfait pas simplement de l'explication pour essayer d'approcher ce qui a pu avoir lieu et la dimension de l'événement.
Eysen aborde aussi Sebald, qui est une figure incontournable de la littérature allemande d'après-guerre.
Oui, alors c'est une figure incontournable, c'est une figure aussi très intéressante parce que c'est quelqu'un qui ne vivait pas en Allemagne, hein, de même que Eysen, qui vit aux États-Unis et qui a constitué une œuvre à partir, on peut dire, d'une écriture mémorielle, d'un dialogue avec l'absence. Hein. Et je crois que ça c'est très très important, c'était de montrer que précisément l'art qui n'est pas l'art de consommation, hein, l'art de qui n'est pas simplement un art de distraction, a pour tâche pas simplement de combler les vides du passé, mais de montrer que ceci persiste toujours à l'intérieur du présent.
Eh bien donc, Philippe Ménard, merci. Je conseille la lecture de cet ouvrage, La hantise de l'oubli, de Andreas Eysen, et puis aussi du dernier ouvrage de votre collection, qui est
My Dog Lala, petit récit d'un enfant qui était interné au ghetto de Łódź, en Pologne, et qui a pu survivre.
Très bien, et bien sûr, la Fondation Auschwitz sur Internet.